Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Adèle Caglar.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le troisième jour de notre série consacrée à l'économie du développement et à ses promesses. Hier, nous avons sillonné le continent africain, largement affaibli par son entrée dans la mondialisation. Des pays aujourd'hui en quête de nouveaux modèles protectionnistes. Lundi, nous avons assisté aux tout premiers débats qui ont agité la sphère des théoriciens après les indépendances. À présent, nous allons repenser le développement à l'aune de la crise environnementale et des inégalités climatiques. La croissance verte peut-elle répondre aux immenses défis économiques et sociaux qui attendent les pays émergents? Voilà l'épineuse question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de développement durable en compagnie de Jean-Joseph Boileau, économiste, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et auteur de « Chine d'Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain » paru chez Odile Jacob. Avec nous également en duplex de Montpellier, Philippe Méral, économiste, directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et co-auteur de cet ouvrage « Les services écosystémiques, repenser les relations nature et société » publié aux éditions Coué. À 14h50, on retrouve le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Philippe Méral et Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de voir comment les pays du Sud tentent de mettre en œuvre une émergence verte, dans quel contexte politique et économique apparaît au début des années 80 ce concept qui est bien connu mais peu évident à définir de développement durable, Philippe Méral?
Écoutez, effectivement, c'est un concept qui est né sur la scène internationale en plein milieu de la guerre froide, en fait. En 1983, l'ONU décide de mandater une commission mondiale pour l'environnement et le développement, qu'on a appelé par la suite le rapport Brundtland, pour définir ce qu'était le développement durable, notre avenir à tous, notre avenir commun, qui a donné en fait les bases de ce concept sur la scène internationale.
Et c'est un concept qui était influencé, Jean-Joseph Boileau, par le rapport Meadows en 1970, qui avait apporté l'idée d'une croissance zéro.
Si vous regardez l'historique, on a quand même longtemps en arrière pensé à tous ces problèmes. Ce qui est dit, et c'est très juste, c'est que le tournant, c'est effectivement ce rapport Brundtland, mais en réalité, dès 1909, vous avez en Europe centrale l'émergence du concept de géonomie. Vous avez tous les travaux qui sont faits dans les années 50 après-guerre, où déjà on porte le problème de la stabilité vis-à-vis de l'environnement. Puis vous avez en 62 le fameux livre Printemps silencieux par Rachel Carson. Vous avez dans les années 60-70, il ne faut pas oublier 68, quand même. C'est assez bizarre. Quand des institutions reprennent quelque chose, on ne se pose jamais la question de savoir quelles ont été les forces qui ont porté cela.
Et pourquoi 68 est important pour vous?
C'est très important parce que c'est la première fois qu'on remet en cause, sur une échelle de masse, le mode de consommation, le mode de développement capitaliste. On oublie des gens comme Schumacher, par exemple. On oublie, j'y reviendrai parce que c'est un de mes gourous aujourd'hui, j'espère qu'il va bien se réinstaller au milieu de la scène, le concept de bioéconomie avec Georgescu Rogan. Et donc, le rappel Bruno, c'est simplement une sorte, comme souvent les institutions, j'ai été diplomate, donc les institutions internationales, c'est une sorte de consensus mou. Ah, il faudrait peut-être commencer à s'interroger sur le problème qui est porté par ces masses.
Vous êtes d'accord avec cette généalogie, Philippe Méral?
Oui, tout à fait. En fait, la conférence de Stockholm, ce sont des moments qui a lieu donc en 72, hein, pas 70, qui est un des moments clés dans la genèse de ces prises de conscience internationales, ne sont que la face un peu immergée médiatique, hein, de tous ces mouvements. Mais c'est exact que on doit remonter même en fait à un des ouvrages majeurs qui est Halte à la croissance du rapport Meadows et du Club de Rome, hein, qui dans les années 70 a clairement mis en avant les limites de la croissance et surtout les limites les limites de la croissance dans un monde fini, en fait. Mmh. C'était ça l'idée de départ.
Mais l'enjeu, ça va être de définir ce terme de développement durable, parce que c'est quand même un terme qui comporte beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'on parle d'un développement durable ou soutenable? Et puis pour certains, c'est une expression qui peut finalement sembler un oxymore, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de développement qui soit durable, Jean-Joseph Boileau.
Oh oui, alors là, j'en suis assez persuadé. Personnellement, on y reviendra. Mais c'est intéressant. La communauté internationale est obligée de travailler par consensus. On peut pas critiquer sans arrêt ces sommets qui ne serviraient à rien, etc., etc. Il faut bien, à un moment donné, qu'on se retrouve et que cette masse d'intérêts différents puisse s'exprimer et trouver donc une sorte de compromis. Donc, je parlais de 68 parce que c'est très important. C'est quand même la remise en cause dans les pays riches. Du mode de consommation, alors capitaliste ou pas capitaliste, peu importe, et la recherche de solutions. Ce qui est intéressant, c'est dans les pays en développement, qui commencent dans les années 60 à prendre beaucoup d'importance, bien sûr, beaucoup d'importance, on a le besoin de trouver une sorte d'équilibre. Et je pense que le concept... Alors, en français, il y a toujours des problèmes de traduction. Hein. Sustainable development, je pense que c'est très difficile de traduire par dur, durable. Voilà. Donc, il y a
l'émergence... En termes de soutenable, vous paraît plus pertinent?
Oh oui, je pense. Hein. C'est ce que dit Tim Jackson, je pense qu'il a tout à fait raison. On est plutôt autour de ce concept de sustainabilité. Hein. Il faut que quelque chose soit soutenable, et donc même la croissance peut être soutenable. Et il n'y a pas, de ce point de vue-là, de contradiction. Il y a une contradiction, comme vous le dites, un oxymore, sur la question croissance-développement. C'est ça la vraie question en réalité. Ce n'est pas croissance durable, c'est développement est-il soutenable ou pas ?
Alors justement, vous parlez des pays en développement. Comment est-ce que cette notion de développement durable est perçue dans ces pays, dans un premier temps, Philippe Méral ?
Écoutez, moi j'ai une expérience à Madagascar, hein, qui est un pays que je connais bien et dans lequel, en fait, quand on parle, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on parle de pays du Sud ou pays en développement, c'est pas une catégorie homogène. Hein, il y a de très grandes disparités, de très grandes revendications concernant la soutenabilité selon les pays, leur situation géographique, leur situation de développement, etc.
On peut distinguer peut-être, pardon de vous interrompre, oui. On peut distinguer peut-être les pays à faible revenu qui contribuent peu au dérèglement climatique, des pays émergents comme l'Inde ou la Chine qui, eux, sont devenus d'importants pollueurs au niveau mondial.
Oui, c'est exact. Mais aussi, ce qui est important de noter, c'est la place de l'aide au développement dans ce dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, le concept de développement durable est apparu essentiellement via l'aide au développement dans ces pays.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, par exemple, un pays donc comme Madagascar, mais comme la plupart des pays les moins avancés, ont été sous l'influence de grandes aides au développement, de grandes agences de développement, pardon, notamment la Banque mondiale, qui, dès la fin des années 90, quasiment à l'issue de cette initiative autour du rapport Brundtland, a décidé de modifier considérablement sa manière d'appréhender les problématiques d'environnement.
Et ça a pu être mal perçu dans un certain nombre de pays qui jugeaient que cette notion était peut-être trop occidentale, Jean-Joseph Boileau ?
Oui, c'est très net. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tout le débat à partir de ces années 90-92, si vous regardez les séquences, hein, protocole de Kyoto, Copenhague, etc., tout tourne autour d'un donnant-donnant. C'est-à-dire, en gros, les pays riches comprennent bien qu'il faudrait qu'ils changent vraiment leur modèle, mais ils voient bien que politiquement, ils n'y arrivent pas. En plus, le plus grand d'entre eux, les États-Unis, disent qu'il n'y a rien à négocier de toute façon. Et on va évoluer, et je crois que tout le monde va être d'accord autour de cette table sur cette idée-là, vers l'idée que bon, c'est les pays en développement qui vont être la variable d'ajustement. Et pour les faire manger, il faut leur donner des compensations. Ce qui va se traduire pour des pays fragiles comme Madagascar au fait que on va mettre sur la table des choses, mais en fait ils n'y croient pas, donc ça ne produit pas d'effet fantastique. Et puis la Chine et l'Inde et les grands pays en gros comme le Brésil, qui eux ont une puissance réelle, vont résister dans toutes ces négociations en disant il faut mettre beaucoup plus sur la table, d'où le sommet de Paris.
Les choses commencent à bouger. Il y a un récent rapport de la Banque africaine de développement qui, justement, montre à quel point l'intégration des critères de développement durable, non pas des contraintes, mais des critères, devient au contraire une opportunité de développement pour les pays africains et une condition de son développement. Et ça va être toute la mission, si vous voulez, que je vais avoir au nom du gouvernement français dans la préparation de Rio, c'est de se battre pour justement faire prendre conscience aux pays du Sud, aux pays émergents, aux pays africains, que c'est leur intérêt que c'est le nôtre, mais que c'est aussi le leur, que c'est pas une contrainte qui s'impose de la part de pays du Nord, mais que les conditions de leur propre développement, c'est d'intégrer justement les limites de la planète.
Pascal Canfin, qui était alors ministre chargé du développement, c'était en 2012, peu de temps avant le sommet Rio plus 20. Que vous inspirent ces propos, Philippe Méral, autour de cette idée qui va s'imposer que les politiques environnementales peuvent contribuer à la croissance économique dans les pays en développement?
Ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, toutes les années 90 et 2000 ont été orientées vers en fait des politiques de très très libérales au niveau de l'appui à macroéconomique, et que donc toutes les initiatives visant le développement durable ont été assez limitées, et qu'ensuite, à partir de 2008 et la crise économique, l'accent est à nouveau mis sur le besoin de croissance économique mondiale. Et donc du coup, l'une des manières pour les gens qui sont dans le domaine de l'environnement de faire passer leurs idées, c'est de dire, renversons la problématique en disant que protéger l'environnement, c'est des bénéfices pour la population, c'est des bénéfices pour les États, pour les économies, pour les entreprises. Donc c'est un changement de discours, mais en fait on l'a déjà, et cette idée de stratégie doublement ou triplement gagnante, elle est déjà dans le rapport Brundtland, elle est déjà dans beaucoup d'initiatives précédentes.
C'est ce que la théorie économique appelle la notion de double dividende, Jean-Joseph Boileau?
Exactement. Alors moi, j'aime bien Alain Piette, qui a toujours expliqué que derrière les doubles dividendes, en réalité, c'était un marché de dupes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vais aller au Mozambique. Le Mozambique vient de découvrir des réserves de gaz qui dépassent 1000 milliards de mètres cubes de gaz, donc plus que le Qatar. Qu'est-ce qu'on fait au Burkina Faso, qui vient de trouver des réserves de pétrole considérables? Et qui lui aussi va devenir un état pétrolier. Et je dis d'ailleurs dans mon livre La Chine d'Afrique, l'Afrique, on ne connaissait pas l'état exact de ses ressources naturelles. En réalité, c'est un continent qui est plus riche encore que l'ex-URSS, que la Russie. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le Niger sort avec le financement chinois du pétrole? C'est un vrai problème, ça. On va leur dire, allez, tu te couches sur ton pétrole, alors même que l'Afrique va avoir besoin, pas de brûler pour brûler du pétrole, mais va avoir besoin de ces matières premières. Tout ça, toujours le même calcul. Double dividende, ça veut dire les pays occidentaux font pas beaucoup d'efforts, et puis tout l'effort va se faire dans les pays en développement. Je crois que ça c'est le marché de dupes. C'est pas un double dividende, c'est un marché de dupes.
Et l'une des possibilités que vous avez évoquées, c'est ces financements venus des pays développés pour répondre à ce qu'on appelle la dette écologique, Philippe Méral. Il faut peut-être expliquer ce que ce terme recouvre.
Oui, en fait, le financement, c'est un des grands mots à l'heure actuelle. D'ailleurs, on parle beaucoup plus maintenant de financement durable que de développement durable dans certaines arènes, notamment d'aide au développement, où l'idée, c'est de faire payer les acteurs du Nord, notamment les entreprises, à travers des dispositifs de compensation, notamment sur le carbone, par exemple, pour financer des actions de protection de l'environnement dans les pays du Sud. Alors ça, c'est un vaste débat qui est né d'ailleurs avec le protocole de Kyoto et la manière dont on pouvait inclure les pays en développement non signataires dans le processus, mais qui amène à des effets pervers très très importants.
Et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de dette écologique, Philippe Méral?
C'est ça, c'est le fardeau que le processus de développement occidental impose à la planète. C'est en termes de rejet, en termes de surexploitation des ressources, voilà, c'est l'ensemble de tout ça.
Et c'est ce qui explique qu'en 2009, à Copenhague, les pays développés s'étaient engagés à verser dès 2020 100 milliards de dollars par an aux pays en développement. Jean-Joseph Boileau, est-ce que l'objectif pourrait être atteint? On en est où?
Mais non, on voit bien que c'est pas le cas. Alors, sur le fardeau, c'est 80% des stocks qui ont été émis, en fait, depuis la révolution industrielle, de pollution, etc., et puis de consommation de matière, l'ont été par les pays riches. Et l'idée d'une compensation, c'est qu'il y a une dette qui correspond à ces 80% de prélèvements sur la planète. Pourquoi? Parce que cette population représente 12 à 15% seulement, en fait, de la population mondiale. Donc vous rendez compte l'immense transfert qu'il faut opérer de l'un vers l'autre. Pourquoi on va pas vers les 200 milliards? Tout simplement parce que...
Vers les 100 milliards, et on serait à peu près à 70 milliards aujourd'hui, donc on
peut approcher quand même. Non, parce que j'ai regardé dans le détail, attendez, c'est ce qu'on appelle de l'habillage statistique.
Expliquez-nous.
Pour avoir été ministère des Finances, chargé aussi du développement, on sait très bien qu'il suffit de changer d'une étiquette, et puis on met ensuite un peu de vert, c'est ce qu'on appelle le greenwashing.
En l'occurrence, le problème, c'est que c'est surtout les prêts qui progressent, beaucoup plus rapidement que les dons, dans le cadre de ce projet de financement.
Alors, ce sont les prêts, donc c'est plus facile que les dons, parce que les dons, c'est imputé. C'est ce que fait la Chine, d'ailleurs. La Chine, dans les routes de la soie, elle ne fait pas de dons quasiment, c'est des prêts. Simplement, ces prêts sont conditionnels à, effectivement, une orientation, on va dire, en termes de développement dit vert. Qui va mettre les mains dans le cambouis pour vérifier si véritablement il y a ce qui était à l'origine de la fin du protocole de Kyoto, quand le Canada s'en est retiré, et de, petit à petit d'autres pays, c'est qu'on s'est aperçu que des tas de contrats qui avaient été signés ne correspondaient pas en réalité à l'objectif du développement durable, mais que c'était par rapport à ce qui était une pente de 10% d'augmentation des émissions, on descendait à 8%, oui, mais on monte quand même à 8%. Donc le problème n'est pas réglé du tout pour autant. Donc je crois que la question est que l'argent est dans ces pays-là, il y a suffisamment d'épargne. Hirschman, dont vous avez parlé, je crois, il y a 2-3 jours.
Lundi, et, absolument.
Eh oui, le grand théoricien de l'investissement et des stratégies de développement, ils n'ont pas besoin de sous. J'exagère, mais pas loin quand même. En termes de transfert de technologie, ça, oui, ça me paraît un peu évident. Mais la question, c'est comment je mobilise l'épargne intérieure de ces pays-là. Leur première épargne, c'est leur population active. Vous la mettez au travail sur des technologies vertes. Par exemple, on en reparlera à propos de l'Inde. Est-ce qu'on passe d'une agriculture qui est en train de devenir extrêmement chimique et intensive dans ces pays-là et on revient vers une agriculture organique qui a un coefficient de travail 5 fois plus important? C'est pour ça que c'est plutôt chez eux que la clé va se trouver, à mon sens, plutôt que dans des transferts financiers.
Vous soulevez beaucoup de questions intéressantes sur lesquelles on va revenir, Jean-Joseph Boileau. Mais d'abord, sur cette question des financements et des promesses de financement tenues ou non tenues, Philippe Méral, qu'est-ce que vous en pensez?
On peut jamais être contre l'idée de d'obtenir des financements et les pays du Sud sont très très friands de cela. Le problème, c'est que c'est pas ça qui résout. Déjà, on a du mal à tenir les accords, on a du mal à tenir les promesses, et ensuite c'est comment on traduit ces flux financiers en actions de développement.
Et est-ce qu'on choisit par exemple de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou est-ce qu'on choisit d'adapter au changement climatique? C'est pas le même choix stratégique.
Oui, tout à fait. Mais alors là, il y a une question de responsabilité des pays du Nord par rapport à ce qui est l'émission et donc la mitigation, hein, la réduction des gaz à effet de serre, que ce soit le CO2, mais les autres gaz aussi, faut pas les oublier. Après, la question de l'adaptation, là, par contre, elle est clairement posée pour les pays, notamment les plus pauvres. Ça, c'est clair que la résilience de ces pays-là va être mise à mal et leur capacité à faire face à ces changements globaux va être déterminante par rapport à leur trajectoire de développement.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Et nous parlons de développement durable en compagnie des économistes Jean-Joseph Boileau et Philippe Méral. Alors ce développement durable est tiraillé entre deux visions depuis ses origines, celle de la soutenabilité forte et celle de la soutenabilité faible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Philippe Méral, en quoi consiste cet antagonisme?
Alors, pour faire court, hein, la soutenabilité faible, c'est une vision d'économiste, on va dire, traditionnelle, hein, qui considère en fait que c'est par une économie marchande et régulée par un système des prix que l'on va pouvoir intégrer ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire intégrer les problèmes posés par la raréfaction des ressources ou par les pollutions globales.
C'est l'idée donc, que le capital c'est par un humain système ou technique voilà. peut se substituer
voilà.
au capital naturel.
Exactement. Et qu'on peut substituer les différentes formes de capital. Donc ça, c'est une vision particulière qui a un impact, enfin qui a une implication politique en termes de politique publique très fort.
Et à l'inverse, les tenants de la soutenabilité faible remettent en question cette vision qu'ils estiment trop économiciste.
Alors, les tenants de la soutenabilité forte. Effectivement, revendiquent une autre vision des choses qui rejoint celle justement d'auteurs comme George Erskine Rogan et en France comme René Passet, des gens comme ça, qui considèrent justement que l'intérêt de la réflexion autour du développement durable et de la mise en relation des trois sphères économiques, sociales et environnementales, c'est de dire que finalement l'économique est inclus dans la sphère sociale qui elle-même est inclue dans la sphère environnementale et que donc on ne peut pas réduire finalement la régulation de la biosphère à des mécanismes économiques.
Jean-Joseph Boileau, sur ce clivage, qu'est-ce qu'il nous apprend aujourd'hui et peut-être quelle est la vision qui vous paraît dominante, puisqu'on sait que par exemple Nordhaus, qui est partisan de la soutenabilité faible, cet économiste a reçu le prix Nobel d'économie, l'équivalent du prix Nobel d'économie l'an dernier.
Oui, Amartya Sen a aussi reçu le prix Nobel d'économie et ses solutions sur le changement climatique et la théorie de la justice en particulier sont assez claires, puisqu'il supposerait qu'il y ait véritablement, comme je vous le disais tout à l'heure, non pas une compensation nord-sud, mais que le nord fasse en gros ce qu'on appelle le facteur 4, réduise de 4 fois ses émissions pour permettre au nord, au sud, pardon, de pouvoir développer un minimum ses propres ressources. Moi, j'aime beaucoup. C'est un débat technique, hein, et évidemment difficile à la radio de rentrer dans le détail. Mais cette notion de substituabilité ou non, hein, des facteurs de production est au cœur d'une réflexion à la fois théorique et politique, qui nous amène à cette grand débat qui était croissance verte ou pas. Ça veut dire quoi là, avoir une croissance verte derrière l'idée de croissance? Georgescu Rosen dit, non, dès lors que vous avez croissance, elle ne peut pas être verte. Voilà, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas substituabilité, précisément, entre le stock de ressources dont on dispose, et dès lors que, même si je recycle, il me faut de l'énergie, et puis il y a de la matière qui est sortie.
Le capital naturel sera forcément usé.
Exactement. Hein, et donc, on n'a pas de substituabilité des facteurs. Puis, et il insistait beaucoup, et Amartya Sen aussi, sur la notion, justement, de développement humain. Le développement humain n'a pas besoin d'autant aujourd'hui de matière, n'a pas besoin d'autant d'énergie. Si on définit le développement humain comme, et les travaux d'Amartya Sen ont bien amené à dire que le développement humain, c'était le développement des capacités, des libertés. Hein, vous avez abordé ce sujet à de nombreuses reprises dans cette émission. Et donc, on ne peut pas effectivement faire un calcul d'utilité économique. C'est ça l'idée au cœur. Et alors, Tim Jackson, qui avait beaucoup travaillé pour le gouvernement britannique sur le sujet, est assez net sur le sujet en disant effectivement un modèle macroéconomique de développement soutenable, donc il lui a rangé la question de la croissance de côté, un développement soutenable, on ne peut pas prendre comme hypothèse qu'il y a une soutenabilité faible et une possibilité de substituabilité des facteurs. Donc il s'intéresse au cœur du modèle, notamment le modèle de consommation.
Philippe Méral, vous êtes d'accord avec cette vision, l'existence d'un développement qui soit durable, mais pas d'une croissance qui puisse être verte?
Oui, le débat est fondamental par rapport à cela. C'est-à-dire que la substituabilité, c'est pas qu'elle soit totale ou absente. Il y a des niveaux de substituabilité. Et un des problèmes de la croissance verte ou même d'idées ou de concepts portés par les scientifiques ou les institutions qui promeuvent le développement, c'est de penser que les choses ne sont pas irréversibles. Et or, quand on atteint un certain niveau d'exploitation du capital naturel, ce qu'on appelle le capital naturel, donc du coup critique, hein, qui à partir d'un certain moment bascule dans autre chose. Et dans le calcul économique, il y a une forme d'irréversibilité. Le temps compte très peu, il est réversible, alors qu'en fait, il ne l'est pas. C'est ça, quand on voit une différence entre la soutenabilité forte et faible, c'est aussi la posture avec laquelle on conçoit le développement ou la croissance future. Là, en adoptant une position d'économiste écologique, hein, ou de soutenabilité forte, c'est vraiment de remettre au cœur du débat la question des irréversibilités, la question du temps long.
Et alors, est-ce que c'est tout de même envisageable de créer une substitution des ressources les unes par rapport aux autres grâce à un système de prix, ce qui est justement ce que défend Nordhaus, Jean-Joseph Boileau, vous n'y croyez pas?
Écoutez, le débat, il est assez simple, c'est la taxe carbone. Si on pense que il y a eu une tribune d'un économiste qui est vraiment partisan là, très fort de cette notion de faible soutenabilité, faible de substituabilité des facteurs, ces économistes et l'essentiel des économistes considèrent que une taxe carbone suffirait à régler le problème. Vous avez eu encore, là, au mois d'août, face au changement climatique, cette idée-là, une taxe carbone, ça suffit.
Pour vous, ça suffit pas, mais est-ce que ça n'aide pas tout de même un peu? Parce que ça ne permet pas notamment des financements qui permettent d'aider la transition écologique.
Eh ouais, mais c'est marrant. C'est comme si vous voulez, on va prendre un exemple simple. On sort là du bureau, on va jeter le gobelet plastique, et puis je vais dire, il faut que je compense, et donc ça va avoir un prix, et ce prix, ça va être aller 1 € ou 0,10 d'euros, etc. C'est croire que le prix est capable, ce qui a été dit tout à l'heure, d'empêcher de ce qu'on appelle les lois de l'entropie. Il y a des lois de l'entropie, même si je taxe. Le fait de jeter ce gobelet plastique...
La nature est modifiée.
La nature est modifiée. Le gobelet plastique a utilisé, a prélevé sur le stock de ressources qui lui est fini. La seule ressource infinie, d'une certaine façon, ça serait le solaire. Donc, en gros, du 100% sur le solaire, sachant qu'il faut quand même des équipements, etc. Et donc, il y a quand même, malgré tout, un prélèvement qui se fera sur les ressources.
Et c'est pour ça, aujourd'hui, que ce terme de développement durable, Philippe Méral, est parfois tellement flou qu'il peut constituer un habillage qui dissimule des pratiques qui sont, en réalité, assez peu écologiques.
Oui, il est flou parce que c'est un concept politique avant tout. Hein. Et comme on le disait tout à l'heure, s'il a gagné autant d'audience au niveau international, c'est parce que justement tout le monde s'y retrouve. Personne n'est contre un développement non durable. C'est ce que disait Jacques Tess. C'est un concept normatif sans normes. C'est-à-dire qu'en fait, il donne un cap, il donne une trajectoire qu'on voudrait vertueuse, qui serait aller vers le développement durable. Mais en fait, on a des difficultés évidemment à y aller, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre la non-durabilité du système actuel. Et c'est en fait, c'est pour ça que c'est assez étonnant comme terme, parce que il veut aller vers quelque part, mais on sait très bien qu'on n'y arrivera pas, en tout cas pas tout de suite, et tant qu'on ne changera pas la structure même du fonctionnement de l'économie mondiale.
Il y a d'autres critiques sur ce concept de développement durable qui ont émergé.
Le problème que j'ai, c'est que on a l'impression que le mot « durable », interprété comme « ne plus toucher à la nature », a pris le pas sur ce qui devrait quand même être l'objectif premier de l'humanité, c'est-à-dire le développement entendu comme la maîtrise de la mort précoce, de la maladie. Il y a aujourd'hui 2 milliards d'êtres humains qui vivent dans le dénuement, et nous ne sommes là qu'à parler des jardins de la terre, de la préservation de la nature. Et on a l'impression aujourd'hui d'avoir développé une vision du monde au nom du développement durable qui est très élitiste et très régressive. Et très idéaliste, bien sûr, parce que on idéalise l'âge d'or des sociétés traditionnelles, on idéalise une biodiversité qui existerait indépendamment de l'homme, on idéalise une nature qui serait forcément bienveillante, alors que la nature, si je puis dire, à l'état naturel, eh bien, il n'y a rien de plus terrible. C'est le sacrifice du faible au profit du fort.
Jean-Joseph Boileau, qu'est-ce que vous pensez de ces critiques qui ont été formulées il y a quelques années déjà par la géographe Sylvie Brunel?
Oui, on a beaucoup de points de désaccord, mais beaucoup de points d'accord, et notamment là-dessus. Il y a une vision romantique qui est en train de se développer dans les pays riches, qui me fait très très peur, parce que on ne prend pas à bras le corps deux réalités. La première, c'est les inégalités. Il n'y a aucun modèle théorique, ou en tout cas de sagesse pratique, qui ne montre pas que notre mode de consommation, notre mode de production, est fondamentalement basé sur un système d'inégalité. Alors, inégalité à l'intérieur des pays, on l'a vu avec les gilets jaunes, on a beau ne plus en parler, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup de gilets jaunes qui rigolent quand on parle aujourd'hui des problèmes environnementaux en France, du changement climatique, etc.
Ils rigolent au sens. Mouvement déclenché par la taxe carbone, d'ailleurs.
Et bien sûr. Bon. Et puis, inégalité est plus importante, qu'on le veuille ou non, et c'est là-dessus que je rejoins Sylvie Brunel, entre le Nord et le Sud. Là, je vais aller, donc, je vous disais, au Mozambique, et puis dans le cœur de l'Inde, là, dans le Madhya Pradesh, je vais trouver des villages dans lesquels les gens vivent encore sur la terre battue, avec un puits qui est à moitié sec maintenant, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème des inégalités, on ne peut pas, je pense, régler ce problème de la soutenabilité, parce que finalement, moi, j'aime bien ce concept. C'est pas parce que c'est un concept de compromis qu'il faut le rejeter.
Et le deuxième constat,
c'est que nous ne maîtrisons pas les lois fondamentales, je dis nous, les économistes, je le suis, d'un défaut, qui est que c'est tout notre appareil qui est encore enseigné dans les universités, dans les écoles, etc., qui repose sur des bases qui sont celles du 18e, 19e siècle, mais plus du tout celles d'aujourd'hui. Et qui est, je le répète, Georgescu Rosen a tenté de définir ce que pouvait être la bioéconomie. Je pense que ça reste effectivement le cadre dans lequel il faudrait qu'on évolue, mais On n'arrive pas. C'est très très lent. Même Till Jackson, là, dans son modèle en annexe qu'il présente, le modèle macroéconomique, finalement reste assez prisonnier de ces facteurs prix.
Philippe Méral, sur cette question des inégalités et sur l'évolution nécessaire de la pensée économique.
Alors, moi, j'ai une vision un peu différente de cela. Et je pense que, alors, la question des inégalités est très importante, mais la question de la nature qui serait portée par un sentiment très très vertueux. En fait, quand on est dans les pays du Sud, la manière dont les politiques d'environnement ont été menées jusqu'à très longtemps, c'était de créer des aires protégées qui excluaient les gens au titre du maintien des habitats des grandes espèces. Or, ce qui a amené quand même la réflexion sur le développement durable, c'est d'essayer de s'interroger sur les conditions de vie des gens qui vivent en bordure de ces espaces protégés et qui en vivent. Donc, une des choses quand même qui a réussi à faire évoluer les politiques via ce concept de développement durable, c'est de réfléchir de manière combinée sur les différents aspects. Mmh. Et ça, là-dessus, on déplace un peu le sujet, mais disons qu'il y a une responsabilité aussi de la part de tout un appareil administratif, de la part des ONG, de la part des bailleurs, qui fait que ça n'a pas marché. C'est pas uniquement le concept qui serait à dénoncer, mais c'est aussi la manière dont les gens l'ont approprié à travers leurs pratiques.
Et sur les modèles théoriques et l'évolution de cette pensée économique, est-ce que la pensée de l'économie du développement n'a pas permis de faire avancer un petit peu les cadres théoriques? Philippe Béral, votre rire en dit long, mais je vais quand même vous demander répondre à cette question.
On le voit dans mon domaine très particulier, qui est celui justement de l'économie de la biodiversité dans les pays du Sud. On voit un schisme qui s'opère entre, d'une part, les gens qui disent, les experts, les économistes, qui disent, ben voilà, si on veut faire évoluer les choses, il faut utiliser le langage que les décideurs ont. Et donc, on va parler argent, on va mettre de la valeur monétaire sur la biodiversité, on va mettre de la valeur monétaire sur les services rendus par ces écosystèmes, on va créer la comptabilité, etc., etc. Et c'est tout ce système-là qui est porté par l'introduction des services écosystémiques dont je parle dans mon livre, et qui est en fait une des versions pour lesquelles les économistes... une des tendances que certains économistes prennent. Et l'autre, c'est de dire, effectivement, il faut revenir aux fondamentaux des inégalités, de ce que l'idée du développement durable, qui n'est pas que la prise en compte de l'environnement, mais qui est aussi de réfléchir au modèle de régulation des modes de production et des modes de consommation à l'échelle mondiale. Et là, c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre.
Everybody's saying that there's no hope on earth. We should build a spaceship and perform the next rebirth. Blast away into the blackness in search of carbon worth. One leaf of what we have here, already have here, have here. And everybody's saying the time is running low. So meet you in the supermarket, panic buy, and then down below into our bunkers like rats in a cave. I wanna stand on the edge of a cliff and just to feel brave, just to feel brave. There's something we could say, there's something we could say. 'Cause it's a good world. Yeah, it's a good, 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 good world. And it's a fine world. It's a fine, 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 fine world. And I think maybe if I sing this over and over again now, like a mantra, if we'll manage. It's a good world, it's a good world.
Good Word de Martha Tilston sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Philippe Méral et Jean-Joseph Boileau sont avec nous pour parler de développement durable dans les pays du Sud. Et nous prenons à présent la direction de l'Inde, une étude de cas concrète. L'Inde qui est l'économie émergente qui croît peut-être le plus vite aujourd'hui, autour de 7% par an. Mais alors est-ce que cette croissance s'inscrit dans les objectifs du développement durable? Ce qu'il faut dire d'abord, Jean-Joseph Boileau, c'est que lors de son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi, le premier ministre indien, avait prévenu l'industrialisation du pays passe avant l'écologie.
Ah non, 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 ça c'est... Alors je sais qu'en France on n'aime pas du tout Modi, les nationalistes hindous, etc. Ils ont, je reconnais quelques défauts, mais non, non.
Ça n'a pas été dit aussi clairement.
Non, mais pour connaître y compris Modi personnellement et comment il vit, il a une figure, c'est une figure de Janus. D'un côté, il dit... on écoutera l'Inde que si elle pèse 5 000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars. Donc il a un agenda de croissance qui est très lié à ce qu'on disait au niveau des inégalités de puissance. Il y a un proverbe indien qui est très beau, qui est que le monde écrase la fourmi et respecte l'éléphant. Mais d'un autre côté, on a quelqu'un qui a développé dans sa politique économique, et c'est pour ça qu'il a été réélu, contrairement à ce que j'entends à gauche et à droite, pour avoir une belle famille en Inde, pour suivre de très très près ce qui se passe, parce qu'il a développé des programmes locaux en termes de pauvreté qui reposent sur l'accès à des toilettes pour tous. Et je peux vous dire, dans les petits villages que j'ai pu voir lors de mon dernier séjour, bon, ils en étaient fiers. C'était un pays où les trois quarts de la population déféquait à l'air libre.
Donc il n'y a pas eu une évolution dans le parcours de Narendra Modi, d'un discours très pro-business à un discours qui justement était plus ouvert d'un côté au développement et de l'autre à la question de la transition écologique.
C'est notre façon cartésienne de tout voir en noir et en blanc. Je vous dis, c'est une figure de Janus. Et en fait, le monde indien, comme le monde chinois d'ailleurs, sont plutôt des mondes de yin-yang, où on essaye de joindre deux choses, deux réalités différentes. Donc il a développé les toilettes, il a développé le Swachh Bharat. Tout le monde s'en est moqué, nettoyé un peu partout l'Inde. Mais oui, mais c'est extrêmement populaire, parce que l'Inde, c'était dégueulasse partout. Il y avait des plastiques, il y avait des... Bon. Et puis, il faut savoir que c'est un homme frugal, enfin. Bon, on s'est moqué un peu de ses costumes clinquants, oui, mais dans sa vie tous les jours, il est extrêmement frugal. Et c'est là où on rejoint un peu ce que disait en privé, en fait, avec Sylvie Brunel. C'est un homme surprenant. Et derrière lui, les gens que je connais bien sont assez surprenants. Il y a un retour du religieux. On se moque de l'hindouisme, fondamentalisme,
c'est
mais c'est
tout
quoi
un sujet, mais qui n'est pas celui de notre émission du jour. C'est passionnant, mais parce moi, ce que j'aimerais comprendre, Jean-Joseph Boileau, c'est pourquoi c'est particulièrement important en Inde, parce que précisément, l'Inde, c'est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète, et aujourd'hui, il y a une nécessité absolue pour l'Inde, notamment, d'amorcer peut-être une transition ou de continuer cette transition qui a déjà commencé, en particulier sur les énergies renouvelables.
Mais sur la base de son propre modèle, et c'est là la grande différence avec les politiques dites de développement, je te donne des sous si tu me suis en fait. Je vais prendre trois exemples simples qui sont en train de se dérouler en Inde aujourd'hui. Le premier, ça s'appelle ZBNF, Zero Budget Natural Farming. C'est le retour complet de la révolution verte qui a été imposée par l'Occident. Agriculture chimique, donc on est complètement dehors des clous en termes de soutenabilité. C'est un État entier, l'Andhra Pradesh, Hyderabad, 40 millions, 12 millions de paysans, avec leurs familles, vous voyez, ça fait les trois quarts de cet État, on revient massivement à l'agriculture organique. Et le gourou de cette agriculture organique, qui s'appelle Subhash Palekar, il est un peu plus au nord, dans l'Andhra Pradesh, c'est un vrai Gandhi du 21e siècle.
Et c'est un modèle économique qui marche?
Eh ben oui, c'est extraordinaire. Ils l'ont testé d'abord au niveau un peu empirique local, et puis c'est en train de s'étendre, et au point que même Modi, un bon ami qui est le chef de la Planning Commission là-bas, Rajiv Kumar, a organisé une rencontre dans les bureaux de Rajpat, là, à New Delhi, pour montrer tous les avantages de cette solution frugale. Frugale.
Alors c'est important aussi de voir que New Delhi s'était engagé lors de la COP21 à porter la part des énergies renouvelables à 40% d'ici à 2030. Et ce que l'on a constaté, c'est que l'Inde a particulièrement investi dans l'énergie solaire.
Au début, notre motivation était purement économique. Mais après, quand nous avons avancé dans la construction de cette centrale solaire de 12 MW, alors nous avons aussi pris conscience de l'importance de ce que nous faisions, l'importance environnementale. Et aujourd'hui, pour nous, ce projet est plus écologique qu'économique. L'Inde peut devenir le deuxième fabricant mondial après la Chine. La demande est immense, en Afrique, au Moyen-Orient.
En Inde aussi ?
Bien sûr, en Inde. 20 ou 30% de nos villages n'ont pas l'électricité. Nous pourrions utiliser l'énergie solaire pour installer des centrales électriques dans ces villages et leur apporter du courant.
Et gagner de l'argent.
Oui, bien sûr. Économiquement, c'est intéressant aussi.
Un reportage de France 2 diffusé l'an dernier. Le développement de l'énergie solaire, Jean-Joseph Boileau, c'est à la fois une opportunité économique et un progrès écologique en Inde.
Et oui, et effectivement, l'Inde est probablement, alors d'une façon très différente de la Chine. Il ne faut pas écarter du tout la façon dont la Chine anticipe massivement un autre modèle de développement. Simplement, c'est un État totalitaire, alors on est un peu gêné aux entournures, comme avec l'Inde, dont je parlais à propos de Modi, du retour des nationalistes religieux. Il ne faut pas croire que tout ce qui est bien sur le plan écologique va l'être bien sur le plan politique, philosophique, idéologique, etc. Je voulais revenir sur l'anecdote. En 81, je commence à travailler sur l'Inde. Ma première visite, c'est dans une ferme solaire. Dans les années 80, alors on n'a pas parlé d'Ignacy Sachs, hein, mais c'est très important, l'éco-développement. Dans les années 80, il y a, enfin dans les années 70-80, dans les pays dits en développement à l'époque, une vraie conscience écologique. Et le fait que ça soit le Mahatma Gandhi qui ait été beaucoup derrière ce mouvement ne doit pas évidemment nous échapper.
Mais vraie conscience de la société civile pendant longtemps et pris en charge beaucoup plus tard par les dirigeants politiques.
Non, il y a eu un break au milieu qui est impressionnant quand même, dont nous sommes responsables. En 91, Manmohan Singh lance la nouvelle politique économique comme en Chine en 79-80 avec Deng Xiaoping qui est de rejoindre la mondialisation et on applaudit dès demain. Et on leur donne des sous pour faire cela. Et donc l'horreur écologique indienne, elle commence à ce moment-là où vous allez avoir l'acquisition de la voiture pour tous, etc. Et on rompt complètement avec le modèle gandhien. Mmh. Et puis effectivement, comme c'est une impasse, alors c'est ça qui est intéressant, c'est une impasse beaucoup plus rapidement dans les pays émergents. On l'a vu avec la Chine, mais on le voit aussi avec l'Inde. Et je vous dis, en Afrique, on le voit partout maintenant, c'est une impasse. Donc ils sont obligés par eux-mêmes de réfléchir à des solutions. Et l'Inde sort de son chapeau, ces solutions qui étaient dans les années 80, le ZBNF, le Zero Budget, l'agriculture organique, bien manger, manger des choses saines, c'est quelque chose qui était dans les années 80, avant la révolution verte. Donc on revient à ces modèles, et ce que j'aime bien, c'est que c'est des solutions endogènes. Endogènes, on ne peut pas appliquer des solutions parisiennes à ces réalités de terrain.
Et qui répondent notamment à une question fondamentale en Inde aujourd'hui, c'est celle des demandeurs d'emploi, puisqu'on a 1 million de jeunes qui arrivent chaque mois sur le marché du travail.
Exactement. Vous voyez, le ZBNF, on a calculé, alors là je suis économiste, donc c'est pour ça que je vais sur le terrain, c'est 5 fois plus d'emplois par kilo de garam masala, de garam, de céréales. Et donc, derrière le solaire décentralisé, c'est une grande différence avec la Chine, mais la Chine n'a pas les mêmes soucis en termes de main-d'œuvre aujourd'hui. Elle se raréfie. Dans le cas de l'Inde, qui est beaucoup plus proche de l'Afrique de ce point de vue-là.
Il y a une croissance démographique qui devrait devenir le premier pays le plus peuplé du monde.
Intensive en main-d'œuvre. Hein, et on retrouve ce que dit Tim Jackson à propos d'ailleurs de notre croissance, de notre modèle de développement. Il faut qu'elle redevienne intensive.
Mais alors, est-ce que vous diriez que cette économie, cette croissance indienne pourrait être qualifiée de croissance durable ? Il y a cette question de la part des énergies renouvelables. Est-ce qu'on va atteindre ces 40% d'ici à 2030 ? Parce que l'Inde a un modèle qui est encore basé beaucoup sur l'utilisation intensive du charbon et du pétrole, Jean-Joseph.
Alors, d'une part, oui, il faut faire attention parce que ce trafic des chiffres est impressionnant. Donc, on vous raconte qu'effectivement, le solaire se développe à toute vitesse, oui. En marginal, il se développe à toute vitesse, c'est à peu près 25 à 30% de l'offre nouvelle d'énergie. Mais en stock, on est guère au-dessus des 6%. Le gros reste effectivement des centrales à charbon, les centrales à gaz qu'ils vont développer, notamment avec ce gaz du Mozambique dont je parlais tout à l'heure, etc. Et puis les centrales nucléaires que les Russes ont construites, que les Français veulent absolument vendre. C'est vrai, transfert de technologie pas vraiment douce.
Donc, est-ce que l'Inde réussit à sortir du pétrole aujourd'hui ? Est-ce que l'Inde réussit à sortir du charbon et du pétrole qui gardent une place très importante ?
Oui, mais par la force des choses, comme je le disais, c'est pas nous qui avons conduit l'Inde à changer, c'est que les poussières de charbon, la pollution du charbon, les encombrements en termes de réseaux ferroviaires, etc., sont tels qu'il a fallu trouver une autre source d'énergie. Et le solaire apparaît effectivement aujourd'hui comme une des solutions.
Maintenant, dans un contexte où les défis énergétiques sont considérables à cause de la croissance démographique dont on a parlé.
Parce que, alors, attention, là aussi, la bombe Ehrlich, etc., cette idée que le monde craque parce qu'elle est trop peuplée, que la croissance, enfin, que l'Afrique va dans le mur parce que sa croissance démographique est beaucoup trop rapide. Oui, j'observe que partout, les courbes démographiques baissent beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et l'Inde est exactement sur cette trajectoire-là. Il n'y a pas eu la politique de l'enfant unique, mais les taux qu'on a en termes d'évolution de la fécondité vont à peu près dans le même sens. Par contre, là où on a du mal à régler le problème, c'est dans cette dualité dont je vous parlais tout à l'heure. L'Inde veut à la fois être une puissance économique au sens des normes internationales, donc il lui faut une armée, il lui faut produire de l'acier, etc. Et à la fois, elle a un modèle de frugalité, etc., là sous le boisseau. Pourquoi on ne peut pas gérer cette dualité? Parce que le monde, et ça, je reviens à Georgescu Rosen, son premier article de la croissance, enfin du développement soutenable, pardon, c'était « il faut arrêter le militaire, les industries de défense ». Tant que vous ne changez pas l'ordre mondial, qui est basé sur cette équation de la puissance, et la puissance classique, et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis veulent faire absolument la guerre à la Chine, parce qu'ils ont un peu peur que la Chine ne revienne à ce niveau-là, eh bien vous aurez en permanence dans les pays en développement, y compris en Afrique. Pourquoi je vais dire à Madagascar, oh là, garde tes réserves d'animaux, développe soft, etc. Oui, mais Madagascar veut exister sur la scène internationale, ne veut pas se faire dicter les choses. Donc il faut aussi, et c'est pour ça que j'aime bien, le développement soutenable a nécessairement une composante qui est celle de la paix.
Vous parlez de Madagascar et justement, je voulais en discuter avec vous, Philippe Méral. C'est l'un des terrains sur lesquels vous avez travaillé. Madagascar, qui est aujourd'hui championne de la déforestation.
À Madagascar, c'est 4% des forêts naturelles de Madagascar qui disparaissent en un seul coup en une année. 510 000 hectares. Vraiment une première au monde. Parce qu'en termes de superficie, bien sûr, c'est le Brésil avec plus de 4 millions d'hectares qui disparaît. C'est pour illustrer vraiment le manque de volonté et aussi la corruption. Parce que la courbe de la corruption, étrangement, va de pair avec la courbe de la déforestation à Madagascar.
Philippe Méral, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la déforestation à Madagascar et de la prise en compte par les pouvoirs publics de cette question ?
Alors, c'est une vraie question parce qu'en fait, les pouvoirs publics sortent d'une série d'une dizaine d'années de situations très compliquées hein, au niveau de la gouvernance de l'État. Et il y a eu pendant 4 ans un bashing en fait hein, de ce pays qui a fait que seules les ONG pouvaient intervenir. Ils n'étaient pas reconnus au niveau international. Et donc, du coup, ça a développé des stratégies de captation de rente, hein, comme décrit le reportage. Et effectivement, un des grands enjeux de la déforestation à Madagascar à l'heure actuelle, c'est les mafias d'exportation de bois précieux vers l'étranger. Beaucoup plus que la pratique de l'abattis brûlis, qui a été au cœur des projets d'aide au développement, et que ce sont les petits paysans qui étaient considérés comme étant les principaux acteurs de la déforestation. Donc, il faut pas nier ce phénomène, bien sûr, mais en termes d'ampleur et en termes de dynamique, c'est quand même clairement les coupes de bois d'œuvre qui se trouvent dans des forêts qui soi-disant sont protégées mais en fait ne le sont pas et qui posent le plus problème. Donc un des enjeux du développement durable, tant qu'on ne prendra pas en question la problématique de la corruption et des mafias organisées sur l'exploitation illicite des ressources naturelles, ce sera à peine perdu.
Mais l'une des leçons que donne l'exemple malgache, c'est peut-être cette nécessité de mieux prendre en compte les populations locales. C'est une des leçons qui ont été tirés, Philippe Méral, notamment de ce que vous avez pu constater sur le terrain.
Oui, bien sûr, parce que c'est là où l'idée de durabilité ou de soutenabilité est intéressante, c'est-à-dire qu'au cœur, ce sont les gens. Les gens doivent, on parle en milieu rural, même si on devrait distinguer milieu rural et milieu urbain et périurbain qui amène à une autre problématique. Mais là, dans le milieu rural, en proximité des massifs forestiers par exemple, ou même on a la même problématique sur le milieu côtier et marin, la question c'est de garder le maximum de moyens d'existence pour ces populations-là, qui doivent pouvoir bénéficier autant de l'accès à l'eau potable, à leurs ressources forestières, à l'électrification rurale, etc., etc. Le levier, il est là. Tant qu'on aborde les choses de manière sectorielle, le problème ne changera pas.
Mais le problème, c'est la temporalité, Jean-Joseph Boileau, qui n'est pas la même entre un agriculteur et un projet de long terme autour du développement durable.
Pour vivre souvent avec ces communautés locales, je dois vous dire que c'est les plus respectueux que j'ai jamais vus de l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'ils en dépendent, tout simplement. Là, je vais reprendre un stupide exemple peut-être, mais comment on se chauffe dans les villages en Inde ? On se chauffe, ou on fait la cuisine d'ailleurs, avec les bouses de vache, et puis avec le petit bois. Et j'entends parfois des experts, non pas des experts, des occidentaux qui disent « Waouh, regardez, ils brûlent le bois, ça fait de la fumée, c'est... » C'est vrai qu'ils peuvent améliorer les fours, c'est en train d'être fait, etc., etc. Mais c'est la solution la plus écologique, de prendre les ressources dont je dispose. Et notamment, on n'arrache pas les arbres comme ça, n'importe comment. Ils font la pratique qu'il y avait chez nous d'ailleurs avant, qui était de couper des branches des arbres, mais jamais les arbres. Et les branches des arbres, elles repoussent. Enfin, quand même, il faut avoir le sens pratique. Mais j'aimerais revenir sur un point, sur le problème du bois et de la déforestation. Parce que j'ai trouvé détestable la façon dont on a traité le problème du Brésil, sachant qu'on n'a pas parlé comme par hasard de la forêt du RDC, du Congo, qui est brûlée exactement au même moment, ou de l'Indonésie. Là aussi, la réponse, elle est chez nous. Parce que ces bois sont exportés vers la Chine. Oh, ils sont méchants, ces Chinois. Oui, mais pour faire quoi ? Pour faire des produits en bois naturels, vous savez, c'est absolument génial. Je ne vais pas citer de noms de magasins qui vendent que des choses en bois. Et alors, le consommateur occidental se précipite pour acheter des choses en bois.
Donc on a stigmatisé le Brésil et la déforestation dont il serait coupable, alors qu'en réalité, c'est nous qui en profitons. C'est ce que vous voulez dire.
Bien sûr, enfin quand même, on le sait bien que ce qu'on mange, ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est ce soja qui est développé au Brésil. Mais c'est très important parce que la Chine et l'Inde, qui sont des puissances, ont, sur le plan de la déforestation, d'abord des situations un peu différentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas, si vous voulez, le Brésil, c'est quand même très peu peuplé. La Chine, c'est beaucoup plus peuplé. Mais eux, ils ont reforesté. Des milliards d'arbres ont été replantés. Moi, j'ai pas vu ça dans ma Normandie natale. Ils l'ont fait parce que c'était leur intérêt. La Chine l'a fait. Vous savez que depuis 91, on ne coupe plus un arbre en Chine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des inondations qui ont fait des centaines de milliers de victimes, etc. Et que la Chine a compris que derrière la déforestation, il y avait en fait ces terrains qui glissaient, etc.
Alors la question écologique et environnementale en Chine est absolument considérable. Il faudrait en faire une émission entière, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission.
L'Inde est en train de replanter parce que son intérêt, l'intérêt des populations locales, c'est autour justement d'une écologie, d'un bien-être local.
Mais je voudrais vous entendre quand même en un mot de conclusion sur ces défis qui attendent aujourd'hui les pays du Sud, trouver la voie d'un développement économique qui soit respectueux de l'environnement, Philippe Méral.
Le message, il est que, en fait, comme cela a été dit, le problème est en grande partie chez nous, tant qu'on considérera qu'il y a des problèmes spécifiques, avec un peu de paternalisme pour les pays en développement, on reproduira les mêmes erreurs. Il faut impérativement reconsidérer nos modes de production et de consommation, s'inspirer également de ce qui est fait de bien au niveau de la gestion des communs, au niveau de la gestion locale, qui apparaît aujourd'hui importante. S'il est clair qu'une grande partie des problèmes, on a parlé du bois, mais si on parle des mines, par exemple, une grande partie des problèmes que rencontrent les pays africains notamment, mais partout pareil, le besoin en matériaux, pardon, extraits, sera le double en 2030 qu'il l'était en 1980. Et si les pays émergents avaient le même mode, suivent le même trajectoire que celle des pays occidentalisés, on aurait une demande de 3 à 6 fois supérieure. Donc ça, c'est quand même dans les pays du Sud que l'exploitation se fait. Donc il y a un gros enjeu là-dessus aussi.
Et c'est l'heure du journal de l'écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Du changement à la tête de Nissan et probablement et possiblement de Renault. Presque un an après le début de l'affaire Carlos Ghosn, l'alliance franco-nippone fait le grand ménage.
Oui, d'abord hier avec la nomination d'un nouveau directeur pour Nissan, c'est Makoto Uchida, en remplacement de Hiroto Saikawa, l'ancien bras droit de Carlos Ghosn, lui aussi accusé de primes indûment perçues. Du côté de Renault, l'accueil est bon. La décision a été saluée par le président de l'alliance, Jean-Dominique Sénard, qui attendait, je cite, un signal fort pour montrer notre volonté d'aller de l'avant. D'après le Figaro, le conseil d'administration de Renault serait même proche d'évincer Thierry Bolloré, pourtant nommé directeur général en début d'année, mais lui aussi ancien proche de Carlos Ghosn. Le ménage, donc, et chacun donne aussi des gages politiques à l'alliance en difficulté. En témoigne, chez Nissan, le choix d'Uchida, réputé direct et au profil international, plutôt que Jun Seki, qui était pressenti directeur de Mitsubishi Motors, c'est seulement maintenant numéro 3 de Nissan. Ainsi, le camp des nationalistes a été sacrifié, explique Bernard Julien, le directeur du GERPISA, et ce ne sera pas le seul.
C'est qui ? C'est quelqu'un qui est un pur Nissan, qui n'a jamais travaillé que pour Nissan, plutôt au Japon, et qui pouvait se prévaloir d'être le responsable de la performance, donc celui capable de redresser Nissan, donc redresser Nissan sur une base essentiellement japonaise. Là, avec le duo de tête qui sont Uchida et Gupta, on a cette idée que le rétablissement de Nissan passe par l'alliance. Il semble bien qu'il y ait un jeu à plusieurs bandes hein, et que Sénard ait joué la direction de Nissan contre Bolloré. Hein, et puisqu'il y avait chez Nissan des gens qui réclamaient que ce très proche de Nissan qu'avait été Bolloré partent comme Saikawa était parti, eh bien ils ont obtenu gain de cause, c'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Il y a effectivement cette situation très fragile de Nissan et donc cette volonté absolue que le redressement de Nissan passe par Renault d'une certaine manière, passe par l'alliance en tout cas, et puis ensuite il y a évidemment la conviction qu'a fini par atteindre le Bercy, que le fait que l'alliance soit au point mort, ça finit par atteindre le moral des équipes, etc. Et ça, Bolloré en est tenu pour responsable, et donc il y a la volonté de changer les choses aussi au niveau de Renault, qui va quand même moins bien et dont les résultats pâtissent de cette espèce de déshérence à la direction liée à une année de tergiversation.
Autre priorité maintenant, redresser Nissan, dont la situation pèse sur les comptes de l'alliance.
Au dernier rapport de juillet, les bénéfices avaient effectivement fondu de 95% en un an. Résultat, une perte de 21 millions pour l'alliance, alors qu'il en apportait 805 l'année dernière. Pour répondre à la baisse future de sa production, Nissan a annoncé des fermetures d'usines, un plan social. Renault, elle, avait vu son bénéfice net divisé par deux. La suite au conseil d'administration le vendredi 18.
On passe au bref, un surcoût d'1,5 milliard d'euros et 3 ans de retard de plus pour l'EPR de Flamanville.
Oui, le résultat d'une nouvelle évaluation par EDF de la réparation de 8 soudures jugées défectueuses dans l'enceinte du confinement du réacteur. Ce nouveau problème de fabrication fait monter le coût total de l'EPR de 10,9 milliards à 12,4 milliards d'euros, plus de 4 fois le montant prévu. Ceci alors que l'énergéticien français a récemment annoncé un probable surcoût également jusqu'à 3,3 milliards d'euros pour les deux réacteurs en Angleterre, cette fois à Hinkley Point, à cause de problèmes de terrassement. Face à ces méconvenus industriels, le gouvernement exprime son insatisfaction. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a promis des décisions concrètes.
Le géant de la pharmacie américaine Johnson & Johnson, de nouveau condamné. Cette fois, il doit payer 8 milliards de dollars.
Oui, là, c'est un tribunal de Pennsylvanie qui le condamne, le pharmacien, à cette somme de 8 milliards de dollars au titre de dommages et intérêts pour un plaignant qui se déclare victime d'un médicament prescrit, notamment contre la schizophrénie, le Risperdal, qui avait aussi pour effet secondaire un développement de la poitrine chez les hommes. Johnson & Johnson a qualifié cette somme de grossièrement disproportionnée par rapport à un premier dédommagement de 680 millions de dollars. Elle est aussi poursuivie pour défaut d'information en Pennsylvanie, Californie et Missouri. Et ainsi, après une condamnation déjà à 572 millions de dollars d'amende dans la crise des opiacés, les litiges s'accumulent pour Johnson & Johnson et la facture s'allonge.
Et pour finir, la pire crise de trésorerie des Nations Unies depuis près d'une décennie, c'est le secrétaire général de l'ONU qui l'affirme.
Et oui, Antonio Guterres qui, dans une lettre aux États membres, les avertit sur le trou budgétaire de l'ONU. Il manque 1,3 milliard de dollars pour le budget 2019. 64 États n'ont pas payé leur contribution. Le secrétaire général craint de ne plus pouvoir payer les fonctionnaires et fournisseurs et ajoute, je le cite, « Notre travail et nos réformes sont en danger ».
Et moi, j'écris le temps qui passe.
Et toi, tu vis tout ce qu'on s'est dit.
La nuit, la lune, le feu, l'orage.
Dans les rues sombres, on bat l'ennui.
C'est dans ta tête que tout s'efface.
Les bons moments, mes fautes, espoir, ma nostalgie. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui.
On se quitte avec Vidéo Club et leur titre Ennui. Merci beaucoup Philippe Méral et Jean-Joseph Boileau de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Montpellier qui ont permis ce duplex. Demain, c'est le rôle majeur joué par les femmes dans le développement que nous examinerons. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.